André Dimbouzima et au Kassai Oriental. Je réfute totalement ce qui se
passe. Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes présidents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à tous, merci de vous joindre à nous pour près de 57 minutes d'échange et de partage consacrés au secteur minier dans la région de Grand Lac. Il s'est tenu à Bujumbura au Burundi du 22 au 23 novembre dernier une conférence internationale sur le secteur minier ayant pour thématique centrale l'exploitation minière pour le développement durable dans la région de Grand Lac. Les participants ont échangé sur le potentiel du secteur minier et son impact sur le bien-être économique et social. La rencontre a pris la forme d'une plateforme de partage des résultats des actions concrètes que les différents acteurs ont mises en œuvre pour mieux organiser le secteur extractif et engendrer des retombées positives. Que faire pour une exploitation transparente des ressources minières dans la région de Grand Lac? C'est la question centrale autour de, dans cette émission Parole aux auditeurs. Parole aux auditeurs coordonnées par J.R. Lungembo, Tissim Poutou et Hérité Siyakala sur la réalisation. Au micro, Piero et Lameichi pour la présentation. Sous la supervision de Nicole Ngaka, fidèles auditeurs, bienvenue à tous.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Piero et Lameichi.
L'exploitation des ressources minérales dans la région des Grands Lacs au centre de notre échange de séjour, qu'est-ce qu'il faudrait aujourd'hui faire pour une exploitation transparente qui puisse profiter à la population? Ces questions ont été aussi abordées au cours de la conférence qui s'est tenue à Bujumbura sur l'exploitation des ressources minières dans la région des Grands Lacs avec comme thème principal l'exploitation minière pour le développement durable dans cette région. Qu'est-ce qui doit être fait? 081 890 43 39, c'est notre numéro d'appel pour que vous puissiez intervenir en direct dans cette émission, formuler votre proposition pour une exploitation transparente des ressources minières dans cette région. Nous allons en parler tout à l'heure. On va recevoir notre invité monsieur Kampata du ministère de Mines avec qui on va discuter ensemble avec vous, mais vous pouvez déjà nous joindre au 081 890 43 39, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission consacrée bien sûr à l'exploitation minière dans cette région. Nous avons déjà je crois bien Maître Machaka qui nous appelle de Lubumbashi dans la province du Katanga qui est déjà en ligne. Maître Machaka, bonjour.
Bonjour Monsieur Piero, bonjour à tous les auditeurs de la radio Capé, bonjour à l'invité.
Et nous formulons ensemble des propositions et des pistes, des solutions pour une exploitation transparente des ressources minières dans la région de Grand Lac. On voit là la RDC, vous avez le Burundi, vous avez le Rwanda, vous avez l'Ouganda. On a d'ailleurs élargi cet espace avec la conférence internationale pour la région de Grand Lac. Vous voyez, ça a été élargi, mais notre démarche dans cette émission, c'est dégager ensemble les pistes des solutions qui puissent permettre à ce que, qu'il y ait une exploitation transparente des ressources minières dans cet espace, qui puisse aussi, n'est-ce pas, résoudre le problème socio-économique et de bien-être de la population. Quel est votre point de vue?
Merci beaucoup, M. Piero. Vous savez, le secteur minier constitue un secteur très important sur le développement de notre pays. Aujourd'hui, l'ordre doit d'abord être mis, M. Piero, au niveau de l'octroi des licences, puisque aujourd'hui il y a une magouille qui se fait entre nos autorités et les miniers.
Oui, mais ma chère collègue, oui.
On ne détermine pas il s'agit de quelle matière et quel est le capital social de cette entreprise là pour l'exploitation des
Voilà, Maître Machaka, on a des petits soucis avec votre ligne téléphonique. Hein. Vous étiez en train de dire qu'il faut mettre d'abord de l'ordre. L'ordre d'abord doit commencer par l'octroi des permis d'exploitation dans le secteur minier, hein, pour savoir qui en principe doit avoir un permis, que ce soit d'exploration, que ce soit d'exploitation, mais aussi connaître le capital. On ne peut pas accorder une autorisation d'exploitation à une entreprise si on ne connaît pas ce capital, on ne sait pas quel est le niveau d'investissement, bien sûr, de cette entreprise. Mais malheureusement, on a perdu Maître Machat. Ça n'a pas été possible qu'il puisse continuer avec son argumentaire. Nous allons à Kikwit dans la province de Bandundu. Orifin, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour Pierrot.
Vous avez suivi notre ami de Lubumbashi qui a commencé par la transparence dans l'octroi des permis d'exploitation dans le secteur minier. Il a parlé aussi du capital, n'est-ce pas, du niveau d'investissement de l'opérateur, mais malheureusement on l'a perdu. Quel est votre point de vue par rapport à cette exploitation des ressources minières dans la région de Grand Lac?
Bon, mon point de vue est que l'exploitation de nos ressources minières, surtout dans la région des Grands Lacs, ne nous profite pas. Je suis d'ailleurs en train d'écrire un livre à qui appartient le Congo, et je me pose justement cette même question, à qui sert vraiment nos richesses minières? Vous savez, en 1960, le géologue belge avait dit, Gilles Cornet, que le Congo était un scandale géologique, mais il parlait de minerais du Katanga. Maintenant, le scandale géologique du Congo, ce n'est plus le Katanga, c'est vraiment le Kivu, la province du Kivu, qui a toutes ces richesses minières dont on parle, surtout le coltan. Alors, pour moi, la solution, parce que les richesses du Congo ne nous profitent pas jusque-là, surtout les richesses du Kivu, qu'est-ce que nous devons faire? D'abord, le Congolais doit prendre. D'abord, il doit connaître ces richesses. Le Congolais ne connaît pas ces richesses. Deuxièmement, le Congolais doit prendre conscience de ces richesses. C'est-à-dire quoi? Le Congolais doit sentir que avec ses richesses, il peut se développer. Alors que ce n'est pas le cas. Et puis, le Congolais doit aussi prendre conscience que ces richesses du Kivu sont convoitées par les pays voisins. D'ailleurs, vous voyez toutes ces guerres récurrentes dans le Kivu, c'est à cause de nos richesses. D'ailleurs, je vais reprendre une phrase de l'ancien président burundais Pierre Buyoya qui disait « La guerre au Congo, c'est parce que le Congo est riche et nous sommes pauvres. » Donc, vous voyez, c'est une guerre vraiment de nos minéraux là-bas. Donc, nous, Congolais, nous devons prendre conscience qu'il y a la convoitise de nos minéraux. Alors, si nous prenons conscience, nous devons protéger nos minéraux pour que ça nous profite. Comment? En organisant une bonne armée. Parce que là-bas, c'est le désordre total. N'importe qui prend et y sort. Et y vend à sa manière. Si nous avons une armée forte, elle va mettre fin aux guerres. Elle va mettre fin au pillage de nos richesses, parce que nous savons que ces gens qui sont en train d'agresser le Congo, ils sont soutenus par les pays voisins, et derrière les pays voisins, il y a les multinationales qui veulent prendre gratuitement, les richesses de notre pays. Et puis j'ajouterai encore un autre élément.
Allez-y rapidement, oui.
Oui, il faut développer le patriotisme chez nos dirigeants, parce que nous remarquons que nos dirigeants cherchent leurs intérêts. Ils signent des contrats léonins. Des contrats où ils ont des commissions. Je vais vous donner l'exemple des pays au sujet de notre pétrole du lac Albert. Combien de sociétés ont été signées, des contrats qui ont été signés? Chaque ministre d'hydrocarbures qui passait, il signait un contrat avec une nouvelle société. Donc, il n'y avait pas cette continuité de l'État. Comme il n'y avait pas le principe de continuité de l'État, chaque ministre qui signait le contrat attendez ces commissions, et voilà la conséquence. Aujourd'hui, notre pétrole du lac Albert n'est pas encore exploité, alors que nous avons la même nappe pétrolière avec l'Ouganda, qui va bientôt vendre ce pétrole.
Voilà, merci beaucoup Orifin. Plusieurs propositions, d'ailleurs, vous dites qu'il faut aujourd'hui d'abord, il faut la cartographie des ressources minières, n'est-ce pas, savoir d'abord elles sont, où se trouvent-elles, elles sont distribuées où géographiquement, mais il faut aussi une prise de conscience sur l'impact de ces ressources minières sur le développement de la RDC. Cette prise de conscience va conduire aussi à la prise de conscience patriotique pour la sécurisation du territoire national et puis l'investissement dans la sécurisation du territoire national en luttant bien sûr contre les intérêts personnels et les trafics d'influence, n'est-ce pas, dans le domaine d'exploitation minière. Merci beaucoup, Orifin de Kikwit. Nous avons Ingopa qui nous appelle de Kananga au Kasaï occidental. Bonjour, Ingopa.
Bonjour, Pifro. Bonjour aussi à tous les auditeurs des paroles aux auditeurs.
Mais vous avez suivi notre ami Orifin. Il a pu ébrosser, selon lui, ce qu'il pense qui doit être fait pour résoudre ces problèmes, n'est-ce pas, pour assurer une exploitation transparente des ressources dans la région des Grands Lacs, qu'il puisse profiter, bien sûr, à la population. Quel est votre point de vue?
Oui, merci. Mais désolé parce que ma ligne téléphonique a tendance à se détériorer. Hein.
Mais pour le moment, ça va, on peut avancer, oui.
Oui, merci. Je disais que actuellement, vous voyez, en RDC, il y a des gisements qui sont exploités d'une manière officieuse, ainsi que des gisements qui sont exploités d'une manière officielle. Mm-hmm. On a par exemple les Alboumbachi. Ce n'est pas réellement, partout on peut dire qu'on exploite d'une manière officielle les richesses. Moi, je peux dire ceci, pour qu'on puisse mettre fin à ces problèmes-là, c'est mieux que le gouvernement puisse s'intégrer donc, totalement, sanctionner les personnes qui sont en train d'exploiter nos richesses d'une manière officielle. Mm-hmm. Par exemple, actuellement, il y a même certaines personnes, vous savez, certains membres du gouvernement qui le font avec les autres qui sont ailleurs, mais d'une manière officielle. Moi, je ne sais pas quand est-ce qu'on va gagner alors que nous avons beaucoup de richesses en RDC. Alors moi, je peux dire que la loi réellement fasse son travail. Est-ce que la justice réellement travaille avec ceux-là qui exploitent nos richesses d'une manière officielle?
Voilà, merci. Merci beaucoup, Ingopa. Vous pensez que pour qu'il y ait une transparence dans l'exploitation des ressources minières dans la région des Grands Lacs, il faudrait d'abord un régime de sanctions pour tous ceux-là qui exploitent frauduleusement. C'est en passant par le régime des sanctions contre ceux-là qui exploitent frauduleusement que les ressources peuvent contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. Merci beaucoup de votre point de vue. D'ailleurs, nous avons déjà en ligne notre invité, le professeur Donat Kampata, qui est le coordinateur de la cellule technique des coordinations minières en RDC, CPTSM, au ministère des Mines, avec qui nous allons échanger avec vous. On va lui accorder la parole, juste le temps d'écouter Olivier qui nous appelle de Kikwit dans la province de Bandundu. Olivier, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, bonjour, c'est Pierrot, et bonjour à tous les auditeurs, bonjour à l'invité.
Vous avez suivi la problématique dans cette émission. Ensemble, nous dégageons les pistes et solutions qui puissent faire à ce qu'il y ait une exploitation transparente des ressources minières dans la région des Grands Lacs. Nous sommes partis, bien sûr, de cette conférence qui s'est tenue à Bujumbura. Par ricochet, cette exploitation puisse contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population. Quelles sont vos propositions?
Oui, bon, moi je vais d'abord relever un point que je trouve assez anormal. C'est-à-dire que la conférence se tient à Bujumbura et on parle du développement durable dans la région des Grands Lacs. Donc c'est comme s'il y a un mariage entre les pays des Grands Lacs pour un régime de communauté de biens. Vous voyez, quand deux personnes se marient, on choisit le régime matrimonial. Vous dites communauté de biens. Et quand une réunion se tient à Bujumbura, pour dire, bon voilà, il faudrait que nos ressources... Alors, il s'agit de quelles ressources? Et ces ressources appartiennent à qui, au départ? Parce que nous connaissons la situation minière de chaque pays appartenant à la région des Grands Lacs. Donc, il ne faudrait pas qu'on fasse une confusion. Je pense que la première chose d'abord, c'est de dire, voilà, le mari vient avec ceci, la femme est avec cela, nous mettons tout ensemble et puis nous allons décider. Mais qui amène quoi pour qu'on dise il faudrait que ces ressources profitent à la population? Et il s'agit de quelle population? Parce que le Congo a dit, moi j'ai ceci, je vais l'utiliser pour ma population. Ce qui est tout à fait normal. Alors, en ce qui concerne le Congo, le grand problème réside toujours dans les hommes. Parce que ce qui se passe à l'Est profite aussi bien aux malfaiteurs qu'on a toujours dénoncé, mais aussi à des membres connus du gouvernement, à des membres de l'armée. Et c'est pour ça que d'ailleurs, partout là-bas, dans ces milieux-là, on vous dit les affaires sont florissantes à l'Est. Ça signifie qu'il y a beaucoup de gens qui profitent de la situation floue de guerre. Donc je pense que nous ne devons pas placer ces ressources qui sont bien circonscrites dans la région du Nord Kivu, de l'Ituri à l'est du Congo, on ne doit pas les placer dans le patrimoine de la région des Grands Lacs. C'est le patrimoine de la RDC. C'est ça mon point de vue. Et à ce titre-là, le langage doit être autre. Mm-hmm. Une réunion ne peut pas se tenir à Bujumbura pour décider des ressources appartenant à un pays, bien circonscrit. Ce n'est pas un pays que nous sommes en train de créer la RDC, c'est un pays qui existe et qui devra continuer à exister avec ses ressources propres. Mmh. Donc, alors, je ne vois pas très bien et ce n'est pas clair. Alors, cela, à mon sens, confirme bien qu'on veut faire disparaître les frontières de la RDC pour parler d'une région comme ça, la région des Grands Lacs. ce n'est pas normal.
Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Olivier. Vous êtes très inquiet. Vous pensez d'abord qu'il faudrait aujourd'hui, s'il faut parler en termes d'exploitation dans la région des Grands Lacs, il faut définir hein, chaque pays, c'est que chaque pays amène, n'est-ce pas, quel pays de la région des Grands Lacs a quelles ressources minières pour qu'on ne puisse pas tomber dans les pièges aujourd'hui, que ça soit considéré comme un patrimoine commun de la région. Mais vous pensez aussi qu'avec la situation des guerres à l'Est, hein, l'exploitation ne pourra plus profiter aujourd'hui à la population congolaise. Mais vous êtes très inquiet par rapport aux définitions, à la conception même, n'est-ce pas, de ces ressources minières dans la région des Grands Lacs. Merci beaucoup, Olivier Dekikuit. Nous allons accorder la parole à notre invité tout à l'heure. Adélard, vous êtes à Colusi, gardez la ligne, on va revenir à vous. 081-890-4339, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans cette émission et formuler ensemble avec nous les propositions pour une exploitation transparente des ressources minières dans la région de Grand Lac.
Parole aux auditeurs.
Professeur Dona Kampata, vous êtes avec nous sur les antennes, bonjour.
Bonjour, monsieur.
Vous avez suivi notre démarche dans cette émission. Nous sommes partis, bien sûr, de cette conférence qui s'est tenue à Bujumbura sur l'exploitation des ressources minières dans la région des Grands Lacs. Et puis, ensemble avec les auditeurs qui nous écoutent, nous formulons chacun ce qu'ils pensent qui puisse être fait au niveau de la RDC pour que l'exploitation soit transparente et qu'elle profite à la population. Mais vous avez aussi suivi l'inquiétude de notre compatriote Olivier Dekikuit qui a peur du concept Grand Lac aux ressources minières de la RDC. Mais est-ce qu'aujourd'hui, y a-t-il des mécanismes au niveau de la sous-région des Grands Lacs pour une exploitation qui soit considérée comme qui appartienne à cette sous-région où chaque pays, dans ses limites, dans ses frontières, s'occupe de définir l'exploitation des ressources minières dans son espace?
Merci beaucoup pour la parole. Il faut dire que quand la minéralisation, quand elle est dans les sols, les frontières retrouvent la minéralisation après. C'est-à-dire que Dieu, quand il a créé la terre, il n'a pas fixé les limites. Les limites des frontières, que c'est nous. Mm-hmm. Maintenant, la malchance pour la République démocratique du Congo, c'est le fait que il y a beaucoup de minéraux qui se retrouvent de notre côté que du côté de nos frères des pays limitrophes. Mm-hmm. C'est le cas de l'or. Quand vous regardez bien la carte géologique de notre pays, il y a l'or dans la province orientale et dans toute la partie frontalière, mais vous regardez en Ouganda, il n'y a pas d'or. Il y a très peu. Si je prends aussi la cassiterite, les coltans, on en a beaucoup dans tout ce qui est comme Nord Kivu, Sud Kivu et la province de Maniema jusqu'au Sud Katanga. Mais quand vous regardez les pays voisins, Rwanda et Burundi, il y en a, mais très 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 peu en quantité. Mais maintenant, lorsque vous parlez de l'exploitation de minerais au niveau du pays des Grands Lacs, c'est difficile parce que on peut parler d'une exploitation commune lorsque le gisement est commun entre les deux pays. Mm-hmm. C'est le cas, par exemple, des gaz méthane. Nous pouvons exploiter avec le Rwanda. C'est le cas du pétrole dans les lacs Upemba parce que c'est un même gisement. Nous pouvons nous entendre exploiter de la même manière. Mais pour ce qui concerne la minéralisation, chaque pays doit exploiter seul. Mm-hmm. C'est le cas de l'or. Mais le problème qui se passe actuellement, c'est quoi? Je prends l'exemple de l'or. L'or est dans les territoires de Butembo et tout ce que vous connaissez dans la suite, province orientale. Comme nous sommes en frontier avec l'Ouganda, tout l'or passe en fraude vers l'Ouganda. Et la raison est simple, c'est parce que les usines de raffinerie sont en Ouganda. L'Ouganda a construit les usines sur base de l'or qui se trouve au Congo. Donc ça va être difficile, c'est-à-dire ils auront toujours besoin de l'or pour donner à leur raffinerie. La cassiterite, c'est la même chose. La cassiterite doit passer par le Rwanda pour aller à l'extérieur. Le Rwanda a des usines de transformation ou de traitement de la cassiterite et des coltans. Donc le Rwanda a besoin de notre cassiterite. C'est pourquoi réellement il y a ce mouvement-là où les pays voisins ont besoin de cette minéralisation qui se retrouve beaucoup plus chez nous. Donc parler de l'exploitation commune de minerais, c'est lorsque le gisement est à la frontière, on peut faire une exploitation commune. Je vais vous rappeler, on avait le même problème avec la Zambie à un moment donné. sur les minerais de cuivre. Vous savez, on exportait les minerais à l'état brut en Zambie. Pourquoi? Parce que les usines se trouvaient en Zambie.
Mmh.
À un moment donné, le ministre des Mines a pris une très grande décision pour dire qu'on ne peut pas exporter les minerais à l'état brut. À ce moment-là, toutes les usines qui étaient en Zambie sont revenues au Congo. C'est pourquoi dans la région, le gouvernement a pris aussi des mesures qu'on ne peut pas exporter les minerais à l'état brut. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas exporter la cassiterite quand elle n'est pas encore séparée avec les coltans et les autres. C'est-à-dire que vous devez donner une valeur ajoutée aux minerais.
Mmh.
Mais comme le Rwanda a besoin de ces minerais à l'état brut, quand je parle de Rwanda, c'est certaines sociétés qui sont au Rwanda,
oui.
Et ça pose toujours problème.
Mmh.
C'est comme bon, quelqu'un, c'est ça, oui. Il installe son usine,
mmh.
Mais il cherche à les nourrir avec les minerais qui se trouvent chez les voisins.
Mmh.
Voilà en quelque sorte ma réponse par rapport à cette question.
Mais et alors, parce que nous parlons de l'exploitation transparente, vous avez suivi, il y a des auditeurs qui sont revenus sur cette exploitation frauduleuse avec les mouvements de guerre, avec les groupes armés, tout ce qu'on connaît actuellement au niveau des provinces de l'Est, que ça ne peut pas faciliter aujourd'hui une exploitation transparente. Mais est-ce que cela peut aussi passer par l'installation des unes des raffineries en RDC, que ce soit pour l'or ou bien la cassiterite? Est-ce que si on pourra aujourd'hui, la RDC dit, elle s'est dotée de moyens de pouvoir installer ces usines, ça peut résoudre le problème des mouvements de ces minerais vers les pays voisins qui peuvent revenir vers la République démocratique du Congo pour leur raffinerie?
Là, c'est la meilleure solution. C'est-à-dire que on installe les usines de raffinerie d'or à Beni, à Butembo ou dans la province à Bunia. Là, c'est une solution.
Mmh.
L'handicap que nous avons toujours, c'est les problèmes d'énergie. Parce que lorsque vous devez installer une usine, il faut toujours penser à l'énergie. Et comme vous savez, le Congo, avec tout ce qu'il est passé comme situation de guerre, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Parce qu'il faut donner, le secteur minier, il faut lui donner le temps de s'installer. Regardez bien dans la province, dans les trois provinces dont je vais citer, c'est beaucoup plus l'exploitation artisanale.
Mmh.
Il n'y a pas l'exploitation industrielle. Au nord Kivu, au sud Kivu, nous avons maintenant la société Twangiza Banro qui exploite l'or. Et là, ça ne pose pas de problème, c'est-à-dire qu'ils ont une usine, on voit bien que l'or est exporté légalement. Mais dans la région, le gouvernement est en contact avec... J'ai vu beaucoup de dossiers qui passent chez nous où les gens cherchent à implanter des usines de transformation de la cassiterite dans les sud Kivu. Maintenant, avec la situation de guerre, les gens, vous savez, un investissement privé, les gens aiment toujours les calmes.
Mmh.
Hein? Mais tant qu'il n'y a pas de calme, vous voyez, quelqu'un peut venir avec ses millions installés dans le nord Kivu ou dans les sud Kivu pour implanter une usine. Il faudra que dans cette région, qu'il y ait un calme. De manière que les investissements privés puissent s'installer. À ce moment-là, si la cassiterite est totalement transformée chez nous en étain, parce que le métal, c'est l'étain,
oui.
Hein, ou bien les tantales pour, excusez-moi, pour les coltans, mais il n'y aura pas de problème.
Mm-hmm.
Mais parce que nous avons actuellement des systèmes de traçabilité, là. Les systèmes de traçabilité, ce n'est pas aussi possible, parce que la cassiterite qui est au Rwanda et la cassiterite au Congo, c'est la même cassiterite. On ne peut pas tracer. Donc, la nuit, les minerais passent au Rwanda. On dit que c'est leur cassiterite. Donc, c'est ça le problème aussi pour la communauté internationale qui disent la cassiterite qui est au Congo, c'est les minerais du sang, mais la cassiterite au Rwanda, c'est les minerais propres. Or, c'est la cassiterite du Congo qui passe frauduleusement et on les nettoie au Rwanda. À ce moment-là, les Rwandais deviennent beaucoup plus producteurs que le Congo. Donc, c'est pourquoi les systèmes, je suis d'accord avec l'auditeur qui a dit qu'il faut installer les usines, nous avons aussi des préalables, il faut de l'énergie, il faut aussi le calme, on ne peut pas venir installer une usine, et je crois que la situation est favorable pour ces gens-là, ils n'aimeraient mm-hmm. jamais qu'on implante et pèse les usines chez nous. C'est pourquoi mm-hmm. ils nous mettent chaque fois dans les tumultes. C'est pour
voilà. Ça. Oui, avant d'écouter les autres auditeurs qui sont sur les antennes, professeur, y a-t-il déjà des études au niveau même de la région pour avoir un mécanisme de traçabilité qui permette aujourd'hui de savoir que ces minerais proviennent d'une exploitation frauduleuse, comme ça il ne peut pas être commercialisé à l'extérieur? Parce que si peut-être quelqu'un peut partir avec sa cassiterite, que ce soit de l'or, et personne ne l'achète parce qu'il n'y a pas un certificat de sortie au niveau de la région, et ça peut obliger les gens à revenir à une exploitation normal? Et aussi, la deuxième question, c'est par rapport aux efforts qui sont faits au niveau de pays de la région, si on peut parler de la RDC et du Rwanda, pour savoir quelle est la contribution de ces pays limitrophes, bien sûr, dans la lutte contre cette exploitation frauduleuse, professeur.
Voilà, c'est-à-dire que nous sommes, dans le cas de Sirgel, on est en train de travailler sur la traçabilité des minerais dans la région.
Mm-hmm.
Donc, nous travaillons avec les Allemands. Traçabilité, c'est quoi? C'est-à-dire que suivre les minerais depuis les sites d'exploitation, jusqu'à sa sortie. Donc, nous sommes en train de travailler là-dessus. Nous sommes avec les Allemands. Et les Rwandais aussi travaillent avec les Allemands dans les cas de traçabilité, donc de minerais. Mais le problème, c'est que il est aussi difficile. Parce qu'un minerai comme de l'or, comment est-ce que vous pouvez tracer de l'or d'exploitation artisanale? Les gens passent avec de l'or dans la poche. Hein?
Mm-hmm.
L'or, c'est très, même avec les diamants qu'on trouve dans les Bafansende, hein, dans la province orientale. Les diamants, comment est-ce que vous allez le faire? La seule possibilité, c'est installer les détecteurs à la frontière.
Mmh.
Or, même si on installait les détecteurs à la frontière, les minéraux, l'or passera toujours. Mais pour la cassiterite, nous sommes en train de travailler. Il y a un programme, un grand programme, et nous sommes déjà très, très, très loin, avec le CIC, pour faire la traçabilité des minéraux depuis l'exploitation jusqu'au comptoir. C'est un travail qui est en train de se faire actuellement, c'est-à-dire on met les puces, hein, ça va se faire dans tous les pays limitrophes. On met les puces et les minéraux peuvent être suivis par satellite jusqu'à la frontière et sa sortie. Et ça, c'est un projet, un grand projet avec lequel nous travaillons avec les programmes promis avec la Banque mondiale et avec nos partenaires, les Allemands. Mais maintenant, la situation actuelle, quand quelqu'un sait bien que ce projet-là va peut-être m'empêcher de faire nourrir mes usines, il peut te coincer et à ce que ces projets-là ne puissent pas se mettre en place. Je crois que c'est une des solutions dans la région, c'est tracer les minerais. Les minerais sont faciles à tracer, c'est-à-dire on les met dans des sacs qui sont des sacs bien, bien propres ou bien dans des tonneaux et on met un puce électronique sur les sacs. À ce moment-là, on connaît que les minerais, c'est les minerais du Congo. Mais là, il faut les faire avec tous les pays qui exportent les mêmes minéraux. Parce que si vous le faites seulement au Congo, le minéraux va arriver au Rwanda et il va enlever le puce et mettre le puce de chez lui.
Mmh.
Ou au Burundi, la même chose. Donc, il faut une politique régionale comme celle que nous sommes en train de faire avec eux. Mais je crois que c'est la situation de guerre qui a arrêté tous les travaux qui étaient en cours parce que les gens de l'ITRI, ils étaient sur le terrain. Mais avec la situation que nous connaissons ici, on ne peut pas envoyer les techniciens sur le terrain. Je crois que la meilleure des solutions, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est implanter les usines.
Voilà, on vous garde en ligne le temps d'écouter Adélard qui est à Colusi et Maître Brino à Ouvira dans la province du Sud Kivu.
Merci.
Grâce à Internet, la radio d'aujourd'hui s'écoute aussi quand vous êtes disponible et pas seulement en direct. RadioKapi.net, téléchargez et conservez vos émissions préférées. Dialogue entre Congolais, parole aux auditeurs et au Kapi Service. Téléchargez l'émission de votre choix, vous l'écoutez quand vous le souhaitez. RadioKapi.net, la radio en différé à votre service.
Adélard, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, mon frère.
Vous êtes à Colusi, dans la province du Katanga. Oui, oui, on vous écoute. Nous dégageons les pistes des solutions pour une exploitation transparente des ressources minières dans la région de Grand Lac. Quel est votre point de vue?
Mon point de vue, moi je suis à Colusi. Alors, vous savez, il y a une belle lurette. On appelait cette ville au moins économique que du pays. Où l'exploitation, proprement dit, on est en train d'exploiter du cuivre et le cobalt. À l'époque de la grande Jekamine, je crois qu'on suivait le tout à la lettre. Et la Jekamine, vous savez, a beaucoup participé activement à la construction de cette province, et non pas de cette province, et surtout de toute la République. C'est pour cela qu'on appelait Colusi le poumon économique. Mais aujourd'hui, nous voyons des multimédias qui sont descendus, qui ont pris la place de la grande Jekamine dans l'exploitation mécanique. Et le cuivre est en train d'être exploité sous forme artisanale. Mais quand vous regardez ceux-là, qui exploitent cela sous forme artisanale, et même ceux-là, les Congolais, qui sont dans les différentes mines à ciel ouvert ou mines souterraines, qui exploitent sous forme mécanique, mécanisée, ils ne trouvent pas gain de cause. Moi, je crois qu'il faut que le gouvernement puisse mettre du sérieux dans cette histoire des ressources fiscales de notre pays, plus précisément de Colombie. Sinon, nous ferions des trous, des grands trous énormes dans les mines d'acier ouvert. Les multinationales prendront pratiquement tout. Ceux là qui exploitent sous forme artisanale, ils prendront tout. Et qu'il va nous rester des vides et rien ne sera pensé sur place. Et la grande préoccupation, c'est quoi? Je peux poser la question à notre invité.
Oui, allez-y.
De savoir, est-ce qu'ils connaissent le tonnage qui quitte parmi la ville de Colombie dans les différentes mines mécanisées? Il ne le sait pas. Les différentes teneurs de minerais de cuivre et de cobalt, sur le plan mondial, je sais que le cuivre, on est en train de le prendre à 2%, du 2%, qu'on peut envoyer à l'usine. Mais les multinationaux qui sont venus le trichement de notre gouvernement, ils sont ici sur place, mais ils vous prennent le cuivre à partir de 10%, à partir de 15%. Ce qui n'est pas normal, parce que là, ils gagnent et en teneur et en tonnage. Parce que quand ils prennent cela, ils vont diluer, ils augmentent en tonnage, ils augmentent en teneur, donc ils prennent pratiquement tout. Et quand vous regardez le prix qui est placé et qui est mis dans notre vie, concernant l'hétérogénite qui nous donne le cobalt, et cela les cultures, pêches, alcoolines qui nous donnent le cuivre, mais c'est terrible, je vous dis. Et comment voulez-vous une sorte d'exploitation et le peuple peut tirer profit? En aucun moment nous ne tirerons profit dans ce genre d'exploitation.
Merci,
parce que
Adela.
Tout est pratiquement pillé par ceux-là qui viennent de l'extérieur. Et quand vous regardez, tous ceux qui prennent, ça rentre chez eux. Moi, mon souci, c'est quoi? Qu'on mette des usines de transformation ici sur place.
Oui.
Aujourd'hui, nous avons le Rwanda qui nous agresse. Nous avons notre cuivre. Les balles et tout qu'on sort, on les fabrique en bas sur balle du cuivre. Qu'on mette des usines de transformation. Des usines de transformation, les cuivres, on fabrique les transformateurs, il y a des tonnes. Qu'on mette des usines de transformation
sur place. Ça va résoudre le problème. Merci beaucoup.
Voilà. Pour s'occuper de ces histoires, je crois qu'en ce moment-là, nous pouvons tirer profit et la population pourra trouver profit dans ce contexte.
Merci beaucoup, Adela. Vous êtes à Colombie, vous avez beaucoup de précisions, n'est-ce pas? Parce que vous êtes dans le milieu, vous avez vu ce qu'a été Colombie du temps de la Gécamine. Vous déplorez d'ailleurs la multiplicité aujourd'hui des sociétés qui exploitent, que ce soit ceux qui exploitent industriellement ou artisanalement. Vous ne voyez pas vraiment les retombées au niveau de la population. Votre souci au niveau du pouvoir public, c'est qu'on puisse avoir des précisions sur les tonnages, la teneur. Vous avez bien maîtrisé les chiffres et vous pensez que la solution pour tout cela, c'est qu'il faudrait qu'au niveau du pouvoir public qu'on ait des usines de transformation installées localement, parce qu'au-delà de la transformation de tous ces minéraux, nous pouvons aussi avoir d'autres produits dérivés et on peut résoudre le problème de la population. C'est votre souhait. Merci beaucoup Adelard en fait vous êtes à Colombi au Katanga. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Maître Bruno, vous êtes à Uvira dans la province du Sud Kivu. Bonjour.
Bonjour, la Radio Capi.
Vous avez suivi l'échelonnement de nos idées dans cette émission. C'est par rapport à la transparence dans l'exploitation des ressources minières, n'est-ce pas, dans la région, parce qu'on a évoqué ces concepts des régions de Grand Lac. Vous êtes dans les provinces de l'Est, où on a évoqué d'ailleurs le problème qui se pose dans l'exploitation frauduleuse. Aujourd'hui, quels sont les mécanismes qu'il faudrait définir pour une exploitation transparente? Vous êtes à Uvira, Maître Bruno.
Merci beaucoup, Radio Capi, pour la parole. Je suis très d'accord avec tous les intervenants, et voire même notre invité qui est dans les studios. Mais je ne suis pas... de l'autre côté, je pense que la première des choses à faire, c'est organiser la politique interne du pays.
Parce que, vous savez, la pensée congolaise ne pèse pas sur l'économie mondiale. Je ne sais pas si vous allez faire appel aux investisseurs tant que la politique interne n'est pas organisée. Avoir des permis, soit des licences, connaître le capital de l'investisseur, c'est plus mieux. Mais si la politique interne n'est pas organisée, ça sera nul. Et aussi, le deuxième élément que je vais ajouter, c'est la prise de conscience. J'avais suivi un auditeur, il avait parlé de la prise de conscience. C'est aussi un élément très important pour que nous puissions parler d'une bonne exploitation, transparence des ressources minières. En fait, c'est ça les deux éléments que j'avais et c'est ça aussi mon point de vue.
Merci beaucoup, Bruno. Vous pensez qu'il faudrait aujourd'hui d'abord l'organisation de la politique interne, mais il y a ces problèmes de l'amélioration, n'est-ce pas, du climat des affaires internes. On est revenu dans une émission autour de ça, la transparence. Tout cela peut résoudre le problème parce que quelqu'un ne peut pas investir s'il n'y a pas une bonne politique de gestion du secteur minier. Nous allons accorder la parole à un autre invité, professeur Donat Kampata. Nous savons que vous êtes pris en ce moment à beaucoup d'autres choses, mais vous avez suivi le deuxième groupe d'auditeurs. Il y a un autre ami de Colosie qui nous a presque rejoint, tout ce qui a été dit depuis le début de cette émission sur la politique d'installation des usines de transformation au niveau local. Mais il y a un autre ami d'Ouvira qui évoque ce problème de la transparence, ce problème de la politique interne. Mais je vais ajouter à ces préoccupations des auditeurs, les plaidoyers ou les démarches de la RDC auprès de la communauté internationale, parce que quand il y a ces climats d'insécurité qui s'installent dans la région, par exemple comme au Nord Kivu, on ne saura pas savoir qui est qui fait quoi, qui exploite pour amener où, et là ça devient toute une confusion, et si ça persiste autant d'années comme on le voit, c'est que c'est autant d'efforts qui sont perdus aussi pour les populations locales. Mais au niveau de la RDC, quels sont les efforts qui sont fournis pour impliquer la communauté internationale dans ce qui s'est fait dans cette région où ces minéraux sont exploités sous, bien sûr, fond d'insécurité, professeur Donat Kampata?
Voilà, mais encore une fois, merci beaucoup. J'aimerais quand même parler d'abord, essayer de faire une réflexion avec notre ami de Colosie. Tout ce qu'il a dit, il a raison. C'est-à-dire qu'il faut reconnaître que quand la Gécamines était là, et la Gécamines produisait un tonnage en cuivre, on exportait aux environs de 475, ça c'était les sommets les plus hauts.
Mm-hmm.
Mais c'est-à-dire que l'État, il faut quand même reconnaître que l'État, notre pays avait un pouvoir d'achat très 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 fort. La Gécamines, on a été sixième producteur du cuivre, premier producteur de cobalt.
Mm-hmm.
Donc, mais maintenant, on ne sait même pas se situer par rapport à la Gécamines, parce que la Gécamines ne produit rien. Il faut même reconnaître que toutes les sociétés de l'État sont tombées. Et leurs outils, il y a beaucoup de problèmes qui sont intervenus par rapport à la mégestion, la mauvaise politique. Parce qu'il faut quand même reconnaître dans les secteurs miniers, c'est l'investissement minier. Actuellement, si on me posait la question, pour nous dire, par exemple, qu'est-ce que vous avez dans les sous-sols? Mais c'est très difficile à les dire. Quand j'ai dit dans les sous-sols, c'est en rapport aux teneurs et en rapport au tonnage que nous avons dans les sous-sols, c'est-à-dire pour les gisements qui ne sont pas connus, même ceux-là qui sont connus. C'est pourquoi il faut de l'argent pour estimer toutes les réserves. Il faut de l'argent. Il faut que l'État dépense l'argent pour faire d'abord l'exploration de tous les continents.
Mmh.
Alors, pour ce qui les concerne, lui, particulièrement, les minéraux de cuivre, moi, je suis d'accord avec lui qu'il faut que les minéraux soient transformés sur place, qu'on ait des industries manufacturières, qu'on ait les fils de cuivre. Du point de vue consommation, notre pays n'est pas totalement électrifié, mais actuellement nous devons chaque fois acheter du cuivre, des fils de cuivre à l'extérieur.
Mmh.
On pouvait avoir des câbleries, même des tôleries, de manière que notre cuivre soit en une grande partie consommé. D'ailleurs, c'est la lutte qu'on est en train de faire. Si vous avez suivi même les discours du président dernièrement, on a dit que nous devons donner beaucoup plus la valeur ajoutée et arriver à installer des usines manufacturières de manière que les produits miniers soient aussi en grande partie consommés sur place. Moi, je lui donne totalement raison. Ça, il faut le faire.
Mais pour l'autre question sur l'organisation du secteur, moi je lui dis que le secteur minier est très bien organisé. Que ça soit là au nord Kivu ou bien au sud Kivu ou ici au Katanga, c'est-à-dire que nous avons des cadastres miniers qui octroient des titres miniers. Mais le problème, c'est lequel? On a donné des titres miniers même à des personnes. Mais nous venons de nous rendre compte que lorsqu'on donne des titres miniers à une personne physique, mais cette personne n'a pas de capacité, n'a pas de capacité technique et financière à le faire. Après, qu'est-ce qui se passe? Il gèle les périmètres, il l'abandonne. Je crois que même dans le cadre de la révision du code minier, le ministre des Mines, c'est-à-dire le gouvernement, a totalement exclu les personnes. Donc, pour ce qui est organisationnel, le code minier donne toute cette donne la possibilité à chacun de venir investiguer les sous-sols et de l'exploiter. Mais le problème aussi, parce qu'il a parlé de la politique interne. La politique interne, on peut faire la politique interne, c'est ce que nous organisons par rapport aux règlements et tout ce qui est comme texte réglementaire dans l'exploitation, que ce soit du pétrole ou de l'exploitation de mines. Tout est là. Le problème, c'est que nous n'avons pas de l'argent. L'exploitation minière, lorsque vous avez du diamant qui est dans les sols, il ne faut pas le considérer comme une richesse. Il faut les sortir du sol, les mettre sur la table. Mais il y a certains de nos amis congolais, ils pensent toujours mal, ils croient toujours que, oh, moi, ma province est riche. Non, ce n'est pas une richesse. Hein? La Gécamine qui produisait 6 000 tonnes, est-ce que vous pensez qu'il n'y a pas de richesse dans les sous-sols? Les richesses sont là. La Niba produisait, était premier producteur de diamants, mais actuellement ne produit même pas. Hein? Si la Niba, si l'État avait de l'argent à donner à la Niba, l'État pouvait donner l'argent à la Niba. La Niba a besoin d'un peu d'argent pour reprendre l'exploitation. C'est pourquoi le gouvernement avait pris, à un moment donné, la décision de privatiser les secteurs, c'est-à-dire que même pour ses propres sociétés, appeler l'investissement privé. Mais nous ne sommes qu'au début. Mais je crois qu'il faut attendre longtemps pour que les situations puissent rebondir. Mais maintenant, à la dernière question.
Oui.
Mais ça, c'est aussi un fondamental. Vous savez qu'il y a une loi américaine qu'on appelle Dodd-Frank,
oui,
qui empêche les transformateurs, c'est-à-dire que les utilisateurs finaux, d'aller acheter un minerai inconnu. C'est-à-dire un minerai, il ne faut pas acheter un minerai du sang, c'est ça la politique générale.
Oui.
Mais cette loi-là nous met aussi mal à l'aise pour nous. C'est une bonne loi, mais nous, ça nous met mal à l'aise à ce moment-ci. Surtout dans la région de l'Est. Parce qu'il y a de l'or et des diamants, de l'or et de la cassitérite, mais qui passent en fraude la nuit ou les jours, mais lorsque l'or ou la cassitérite se trouve dans ces pays-là, les sociétés achètent et ils croient que le minerai est propre. Alors que le minerai vient du Congo, il est déjà sale. Il est déjà sali. Et ça va être, c'est très très difficile. D'ailleurs, dans la région là, je vais vous dire pourquoi la guerre aussi persiste dans la région. S'il n'y avait pas de l'or, il n'y avait pas de minerai, la cassitérite, ces groupes rebelles, ou bien les Maï-Maï, comment ils pouvaient acheter des armes? Mais non, la guerre persiste dans cette région, c'est parce que il y a ces minerais là. Il y a ces minerais. Mais je crois que le gouvernement, dans la grande politique de Grand Lac, si toute la situation s'est calme, on met, comme on a dit, on va sécuriser les frontières.
Oui.
Mais en sécurisant les frontières, on ne parlera pas de l'exploitation commune dans les régions des Grands Lacs.
Oui.
Mais chaque pays devra exploiter ses minerais. Et avec les systèmes de traçabilité dont je vous ai parlé,
oui,
on va tracer les minerais. Les Rwandais vont tracer ses minerais et le Congo trace ses minerais, mais dans le cas d'un certificat unique de surgel, comme on le fait avec les diamants, les certificats du procès de Kimberley.
Oui.
Vous avez vu qu'il n'y a pas de guerre, on avait des guerres en Sierra Leone, on avait des guerres dans beaucoup de pays autour du diamant, mais maintenant c'est devenu un peu propre.
Voilà.
Donc, l'aboutissement, c'est vers là, arriver dans la région à un certificat des sergels. C'est, voilà. Nous nous battons pour ça.
Oui, on va terminer cette émission dans une dizaine de minutes. Professeur, si vous le permettez, on va écouter le dernier. Je crois deux, trois, quatre derniers auditeurs. On revient à vous pour conclure dans une dizaine de minutes. On va terminer cette émission, si vous nous le permettez.
Oui, nous avons, certain.
Voilà, nous avons Julien qui est à Guémena, Samuel qui est à Isiro, dans la province, à la province orientale. Julien, vous êtes avec nous. Bonjour.
Bonjour, monsieur Julien.
Voilà, vous avez suivi le cheminement de cette émission. Nous avons Julien, vous êtes à Guéménastan, à la province de l'Équateur. Je crois bien Samuel est à ici. Merci pour la précision. Julien, on vous écoute.
Oui, pour moi, je proposerais ceci. Hein. Mm-hmm. Pour avoir tout ceci, il faut avoir une armée puissante qui va protéger nos minerais.
Mm-hmm.
Des impôts, créer une police des mines bien payée et bien équipé pour protéger nos ressources aussi. Et suspendre l'exploitation artisanale, que le temps puisse faciliter en créant les exploitations industrielles pour faciliter la population pour mieux vivre.
Voilà, merci beaucoup Julien. Voilà, merci Julien. Vous pensez qu'il faut d'abord renforcer l'armée, la rendre préférée professionnels pour sécuriser les périmètres miniers, n'est-ce pas, les zones où il y a ces mines à travers le pays. Il faut aussi avoir une police des mines bien encadrée, mieux équipée, qui puisse sécuriser les zones, mais aussi, pour vous, vous pensez qu'il faut suspendre l'exploitation artisanale, mais plutôt plus favoriser l'exploitation industrielle. Merci beaucoup, Julien de Guémena. Nous avons Samuel qui est à Isiro, c'est en province orientale. Bonjour, Samuel.
Oui, bonjour JR.
C'est Piro et la Mégie Samuel, merci. Vous avez suivi vous avez suivi les uns et les autres nous tendons vraiment vers la fin de cette émission. Quelle est votre proposition pour une exploitation transparente des ressources minières dans la région des Grands Lacs?
Oui, oui, ce qu'il faut savoir, Piro, c'est que l'invité, j'ai entendu l'invité dire tantôt là que l'or, le diamant peuvent passer à la frontière sans contrôle, on ne sait pas contrôler. Mais il faut se poser la question, pourquoi ces exploitants artisanaux-là apportent de l'or dans un pays étranger? Mais pour qu'ils soient attirés par rapport à quoi? Mais est-ce qu'il ne faut pas que notre pays aussi, ceux qui gèrent le secteur des mines, puissent créer des mécanismes incitatifs pour protéger ce genre-là, de ne pas amener ces produits-là dans un pays étranger? Parce que c'est un pays comme nous aussi, c'est un pays africain, ils sont noirs comme nous. Nous pouvons aussi créer des stratégies pour que nos produits-là ne partent pas chez eux et que nous puissions garder ça ici chez nous. Ça, c'est en premier lieu. En deuxième lieu, en province orientale, précisément, ici là où moi je suis, nous avons un grand gisement d'or, des kilomètres à Ouacha. Mais ces gens-là se sont permis d'arranger la route maintenant vers l'Ouganda, au lieu d'arranger la route maintenant vers la province, le chef-lieu de la province, où vu que cet or-là qu'ils vont prendre là, on amène à la province, de la province on peut amener à la capitale, là on saura comment bien capitaliser ça, bien donc contrôler, compter ça. Mais on amène ça en Ouganda, c'est-à-dire on favorise que tout parte en Ouganda, au Rwanda, c'est ce que nous on ne comprend pas.
Mm-hmm. Voilà, merci Samuel. Vous dites qu'il faut aujourd'hui aussi au niveau du pouvoir public à Kinshasa, disons en RDC, qu'on puisse avoir des mécanismes hein, qui puissent donner des garanties à ceux qui exploitent, ceux qui ont cet or, ces diamants, de ne plus traverser la frontière pour vendre ailleurs, mais qu'ils soient attirés à vendre ça au pays. Mais votre inquiétude aussi, c'est par rapport à l'exploitation de l'or, n'est-ce pas, les gisements des Kilomoto à Ouati en province orientale. Vous dites que l'entreprise est en train d'aménager la route de là vers l'Ouganda, mais pourquoi pas aménager vers Kisangani, ça risque d'avoir un problème sérieux, n'est-ce pas, de fraude, pour savoir quand ça va traverser, qu'est-ce qui traverse, qu'est-ce qui est dedans, qu'est-ce qui doit être fait. Merci beaucoup, oui. Samuel. Nous avons Shadrach qui nous appelle de Mbandaka, dans la province de l'Équateur. Bonjour, Shadrach.
Oui, bonjour, bonjour à notre invité, ainsi qu'à tous les auditeurs de la radio,
Voilà, nous faisons ensemble une analyse dans cette émission des mécanismes qui puissent faciliter la transparence dans l'exploitation des ressources minières dans notre espace, bien sûr, cet espace appelé espace des Grands Lacs. Quelle est votre proposition, Shadrach?
Bon, j'aurais d'abord une question, ensuite je vais aussi donner quelques pistes de solutions.
Mm-hmm.
Ma préoccupation est la suivante et j'aimerais demander à notre invité, parce que le président américain, M. Barack Obama, avait décrété un article ou bien une loi pour régularisation de mines au niveau du Grand Lac. Alors, où sommes-nous avec cette loi ou bien quel est l'impact de cette loi actuellement dans notre pays?
Mm-hmm.
Voilà la question.
Ok, allez-y maintenant, votre proposition, oui.
Et peut-être que des solutions, j'aimerais à ce que le gouvernement puisse informatiser le service qui se trouve au niveau de la frontière. Parce que nous voyons beaucoup de bébés à travers nos frontières parce que les services qui sont là ne sont pas tellement informatisés. Même s'il y a de mines qui sortent, il n'y a pas moyen qu'on puisse les détecter rapidement. Alors si on arrivait à informatiser ces services, alors il y aura beaucoup de transparence et de clarté.
Merci. Chadrach, vous avez posé la question à notre invité de savoir où en sommes-nous aujourd'hui avec l'application de cette loi votée aux États-Unis sur les minerais et puis son impact en RDC. Y a-t-il déjà un impact positif ressenti en RDC dans l'application de cette loi? Mais vous proposez aussi que nos services au niveau des frontières puissent être plus performants et qu'ils puissent être informatisés. Cela veut dire équipés d'une manière à leur permettre de travailler professionnellement. Nous allons écouter Marcel qui est à Kisangani, je crois bien, et puis on va revenir à notre invité. Marcel, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour Radio Capier, bonjour auditeur.
Vous êtes à Kisangani en province orientale. Votre point de vue sur l'exploitation transparente de ressources minières dans la région de Grand Lac.
Ok, merci beaucoup M. Pierrot. Savoir à notre invité, il doit comprendre qu'une bonne coopération économique et régionale doit être une résultante aussi d'une bonne coopération politique et régionale. Vous savez, tout ce que nous vivons aujourd'hui, que ça nous crée aujourd'hui, Cela doit être compris comme étant une mauvaise coopération politique au niveau de la sous-région. Et cette mauvaise coopération politique, justement, est la résultante de ces minerais que dispose notre pays. Puisque comment voulez-vous que cette conférence ait lieu, mais je ne sais pas et je me demande quel est son impact, puisque nous savons au niveau de la sous-région des Grands Lacs, nous avons en fait des voisins qui, depuis toujours, lorsque on s'engage à faire quelque chose, et font toujours le contraire. Donc, au niveau économique, je ne pense pas que ça réussira, d'autant plus qu'au niveau politique et diplomatique, rien n'a toujours été respecté de leur camp. Alors, voilà un peu de l'inquiétude que nous avons quant aux initiatives qu'entreprend cet organe chargé de la réforme, si pas de l'exploitation minière au niveau de la sous-région des Grands Lacs. Voilà un peu les quelques inquiétudes que nous avons.
Merci. Marcel, vous êtes très inquiet parce que vous avez remarqué qu'il y a un problème, des problèmes au niveau de la coopération politique et dans la région de Grand Lac avec le respect des accords qui ne semblent pas marcher. Et cela aussi induit une mauvaise coopération économique. Et la conséquence de tout cela, c'est ce que nous vivons sur terrain, l'exploitation frauduleuse, n'est-ce pas, des ressources en ce qui concerne la RDC. Vous êtes très inquiet par rapport à cela. Professeur Donna Kampata, nous allons terminer cette émission avec vous. Vous avez suivi les uns et les autres. Il y a Chadrach qui a posé la question de savoir s'il y a déjà l'impact ressenti en RDC dans la mise en application de la loi votée aux États-Unis sur les minerais de sang. Mais il y a notre ami Marcel de Kisangani qui est très inquiet, qui dit que sur le plan politique, il n'y a pas une bonne coopération entre le pays de cette sous-région, que ce soit aussi sur le plan diplomatique, qu'il y a des problèmes sérieux dans le respect des accords. Et c'est là aussi de l'impact dans la coopération économique. Et vous en profitez d'ailleurs pour conclure cette émission dans 3 minutes, professeur. Et professeur Donald Kampata, vous êtes avec nous? Voilà, on a perdu le professeur qui devait en principe conclure cette émission. Peut-être qu'on pourra voir avec la réalisation. J'étais en train de dire que nous sommes en train de terminer cette émission consacrée à l'exploitation minière dans la région de Grand Lac. Bien sûr, c'est au regard, n'est-ce pas, à marge de la conférence qui s'est tenue à Bujumbura, dans la capitale du Burundi, du 22 au 23 novembre dernier, sur l'exploitation minière pour le développement durable dans la région de Grand Lac. Quel mécanisme faudrait-il aujourd'hui développer pour que cette exploitation puisse être transparente et par ricochet puisse aussi résoudre le problème de bien-être de la population? Plusieurs propositions dans cette émission nous sont parties de Maître Machaka de Lubumbashi, en terminant par notre ami Marcel de Kisangani. Plusieurs personnes pensent qu'il faudrait aujourd'hui, au-delà des mesures sécuritaires, qu'il faudrait dans les zones d'exploitation minière, surtout à l'est, le renforcement de la sécurité, la protection des frontières, mais il faut aussi l'installation des usines de transformation de tous ces minerais au pays pour permettre à ceux qui ne puissent pas être attirés par l'extérieur. Beaucoup de propositions dans cette émission qui se termine déjà. Vous avez été très nombreux et nous avions associé à ces débats le professeur Donat Kampata, qui est coordonnateur de la cellule technique des coordinations minières en RDC, au ministère des Mines, bien sûr, qui nous a accordé son temps plusieurs propositions pour l'exploitation transparente de mines dans la région de Grand Lac. C'est par là que nous terminons cette émission en vous disant tous merci, parce que vous avez été très très nombreux à vouloir intervenir et nous accorder, et bien sûr, de votre temps. Nous vous disons tous merci.
Allô? 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 Mais, ils ne répondent pas?
On va se retrouver demain vendredi pour le dernier numéro de la semaine, qui sera consacré bien sûr à la mortalité infantile en RDC. Plusieurs rapports évoquent que les enfants de 0 à 5 ans connaissent assez des problèmes de mortalité. Nous allons en parler avec vous demain, surtout dégager aussi les pistes et solutions pour réduire cette mortalité infantile. Vous allez retrouver ces sujets dans plus de détails sur le site internet de Radio Capi, mais aussi sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs. Merci à Gilles Lungue qui a coordonné cette émission. Titim Poutou et Rite Siyakala ont assuré la réalisation. Pierrot et la Meiji vous la présentez sous la supervision de Nico Ngaka. Vous allez retrouver cette émission à 20h03, heure de Kinshasa, mais aussi sur www.radiocapi.net. Ne vous déplacez pas, le programme continue sur Radio Capi. Au revoir.